Voici que je viens sans tarder. Heureux celui, celle, qui garde les paroles de ce livre. Restez éveillés et priez en tout temps. Les textes qui nous introduisent à l'Avent, vous voyez, c'est le dernier texte avant le début de l'Avent, c'est tout blanc ici dans le lectionnaire. C'est le dernier. On va tout remettre à la page 1. Alors, c'est vraiment celui qui nous introduit dans ce temps liturgique. Il nous faut entrer dans le cœur du mystère de Noël. Reste réveillé. Écoute. Shema Israël, écoute mon fils, ma fille, disait Saint Benoît au début de sa règle, au milieu des vendredis fous, du bruit lointain, des bombes et des angoisses d'Hérode sous toutes ses formes. Nous sommes invités à prendre le chemin de l'humble attention à la sagesse qui se révèle au cœur pour le retourner, pour nous mettre en position écoute. Vous savez, comme ces paraboles là, qui captaient les ondes de satellites pour attraper les stations de télé, hein? Il fallait aligner ça comme il faut. Il fallait ouvrir la parabole pour accueillir, pour reconnaître ces ombres, ces ondes. En préparant cette homélie, je suis tombé sur un texte de l'humoriste Raymond Devos. Plusieurs d'entre vous le connaissent, avec son génie de la langue, ce Belge qui jouait avec les mots et qui en a fait un art. Alors, il y a un texte qui s'appelle « Oui dire ». Oui, O-U-I, avec des trémas. Il dit « Il y a des verbes qui se conjuguent très irrégulièrement. Par exemple, le verbe « ouïr ». Le verbe « ouïr », au présent, ça fait « joie ».« Joie ». Si au lieu de dire « j'entends », je dis « joie », les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux, alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Il faudra alors préciser « Dieu, que ce que joie est triste » ou « que ce que je joie est joyeux ». Alors, écoutez pour de vrai, c'est joyeux. Écoutez pour nous faire découvrir des trésors de joie, une joie profonde, celle que le monde entier ne saurait nous donner. C'est notre manière de nous laisser guider par l'étoile jusqu'au chevet du mystère que nous allons célébrer à Noël. Je vais vous parler d'un illustre inconnu, mon grand-père. Il s'appelait Luigi. Il répétait à tous ceux qui voulaient l'entendre un adage connu dans les campagnes québécoises. Il venait de la région de Charlevoix. Il disait toujours « C'est pas les vaches qui beuglent le plus fort qui donnent le plus de lait. » Gros bon sens campagnard. Marin de son métier, il navigua toute sa vie sur les eaux de notre grand fleuve Saint-Laurent. Il m'a transmis plein de choses, entre autres une de mes parents qui m'a engendré. Il m'a transmis d'autres choses, la passion de la mer et celle des astres. Ainsi, à son contact, j'ai appris qu'au moyen d'un petit bidule en plastique qu'on appelle un sextant, nous pouvons, en contemplant les astres qui sont situés à des distances infinies de la Terre, trouver par eux à quelques mètres près, notre position sur la Terre. Nous situer comme homme, comme femme, en contemplant un petit point perdu dans l'immensité. Tenir nos cœurs en éveil. Par la cesse de l'écoute, nous permet de saisir l'astre des astres, la lumière de la lumière, et nous laisser recevoir de lui, nous l'avons lu, cette force qui permet d'échapper au néant et nous tenir debout. Nous tenir debout. Notre célébration aujourd'hui, on l'a dit, nous introduit dans ce temps de grâce, il prépare la crèche de nos cœurs à accueillir le don d'un amour qui est appelé à se renouveler. Les crèches que nous réinstallerons ces jours-ci se rempliront de personnages, avec des animaux. La tradition nous invite à garder la déposition du personnage principal seulement la nuit de la nativité. C'est Jésus-Christ, enfant, qui va donner le sens à tous ces petits santons que nous allons placer. Sans lui, il y en a un qui a les bras en l'air, il y a un âne, il y a un bœuf, tout le monde, voilà, une position, mais ils n'ont pas encore leur sens. Notre célébration, c'est Jésus-Christ, oui, qui donnera le sens aux santons. Sans lui, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et ainsi en est-il de notre vie dans le monde, d'où l'utilité de suivre notre étoile, chacun chacune. Notre célébration accompagne aussi cet événement important, signifiant, du renouvellement, on le disait, des promesses d'engagement de la fraternité apostolique de Jérusalem. C'est une des raisons qui m'a donné l'idée de me faire accompagner pour animer la journée de recollection de ma petite équipe, des membres de l'équipe pastorale de notre paroisse. Et nous sommes tous et toutes des paroissiens, d'une manière ou d'une autre, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui a une grande figure de ce temps de l'Avent, qui se prépare. Au-delà de toutes ces misères, notre Église nous a livré la clé de la beauté du monde et la clé d'une joie absolue. Si les événements de nos vies personnelles, celles du monde, celles de l'Église, paraissent nous dépouiller parfois cruellement des repères et des formes de vie en Église que nous avons connues jusqu'à présent, la veille du cœur consiste aussi à écouter en communauté les signes des temps. Notre pape nous y a invités lors de ce synode sur la synodalité qui continue. En complémentarité avec les dons et les charismes déjà à l'œuvre dans notre Église, il apparaît qu'il nous faudra soutenir davantage des formes renouvelées des ministères en vue de la mission. Je suis allé me promener dans les dictionnaires, j'ai trouvé le mot « ministère » et il y a toutes sortes, évidemment, les ministères publics, les finances, choses. Et au plan religieux, les ministères, dans le christianisme, nous dit que c'est un service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et pour la mission. Votre présence parmi nous, les frères et sœurs de la fraternité, les circonstances de cet engagement que vous vous apprêtez à renouveler, appuient cette grande intuition de notre Concile Vatican II, qui est encore un programme bien à jour, qu'une part vitale de la mission de l'Église est, pas ne sera, mais est confiée aux laïcs, à des croyants et croyantes, au cœur de feu, des passionnés d'humanité. Il est toujours plus que temps d'instituer, d'encourager, de former des nouveaux ministères laïcs au service de la mission. Il y a le lectorat et l'acolytat. Bien sûr, ça existe dans l'Église, mais finalement, il n'y a plus besoin d'être institué pour aller faire la lecture, ni pour servir la messe. Alors en revanche, les communautés devraient disposer de tous les moyens de se prendre en main, même en l'absence de prêtres. Hélas, c'est une réalité de plus en plus courante. Pas des jobs pour boucher les trous, mais de véritables ministères. De ce point de vue, c'est intéressant de nous référer aux églises d'origine. Et j'ai été témoin, j'ai eu la chance, à partir des JMJ, c'est une des grâces des JMJ de 2003, quand Jean-Paul II était venu à Toronto. Je ne sais pas si certains s'en rappellent, on avait accueilli ici une légion de jeunes qui venaient de la Polynésie, avec leur évêque, avec quatre prêtres. Il y en a qui avaient logé dans les familles, ici, au sanctuaire, partout sur le plateau. On les avait parqués là où on a pu. Et ils avaient un billet d'avion libre au chemin du retour. Alors ils avaient tellement aimé leur séjour à Montréal qu'ils ont dit « Père, on te ramène dans nos bagages pour quelques jours ». Alors figurez-vous, après les JMJ, j'étais sous les cocotiers à rentrer dans de l'eau d'une couleur indescriptible et portée par la joie de tout le monde, par les chants, etc. et l'action de grâce pour ce moment qu'on avait vécu ensemble. Et ça a été le point de départ d'une histoire d'amitié qui m'a ramené là-bas plusieurs fois pour accompagner un synode, une opération d'écoute axée sur les jeunes dans l'Église. Et cette opération, elle a mis en place une Église capable de se prendre en main, même dans l'attente de prêtres. Là, il ne s'agissait pas de combats idéologiques ou d'opinions. Ils n'avaient tout simplement pas le choix. Il y a 180 îles habitées. Et puis, une toute petite poignée de prêtres et des îles habitées, ça veut dire des fois des petites communautés de quelques dizaines de personnes, mais extrêmement ferventes, extrêmement... Oui, vous direz à Jésus que je le rappelle après. Donc, qui ont dû se prendre en main, non pas faire fi du sacerdoce, ou au contraire, mais de se prendre en main en l'absence de prêtres. Et ils ont développé des ministères, des personnes, des hommes et des femmes qui prennent ça très au sérieux, qui se forment pendant plusieurs années dans des camps diocésains de formation qui ont lieu l'été, et ils forment des anciens pour prendre soin de la communauté en attendant de préparer le chemin de la prochaine visite du prêtre qui se fera peut-être une année ou deux plus tard. Oui, des fois deux ans entre deux visites d'un prêtre ou d'un diacre. Des ministres d'enseignants et de catéchètes qui préparent petits et grands au sacrement. Des ministres de l'Eucharistie qui ne font pas juste donner la communion pendant la célébration, mais qui ont tout le souci des pauvres, des malades, de la présence auprès des démunis de l'île et de toute la solidarité. Des intendants pour prendre soin des lieux de culte. Davantage de diacres pour entourer le sein maternel de l'Église que demeure le baptême, le sacrement de mariage, le service. Et enfin, ministère institué, des chantres, oui, des chantres, qui se forment pendant des années pour animer la liturgie. En Polynésie, ça chante, mes amis, c'est extraordinaire. Polyphonie, canon, hommes, femmes, des choses qui nous prendraient à nous des heures et des heures de pratique. Là-bas, ça se chante nu-pieds, les enfants, tout le monde, a de tout leur cœur, le feu et la joie sortent par les fenêtres. Il faudrait à notre Église d'autres fraternités apostoliques comme la vôtre pour animer, soutenir des nouveaux missionnaires pour l'Église. À cet égard, à l'égard de la responsabilité de tous dans la mission, nous avons certainement beaucoup à partager à travers le dialogue œcuménique. J'en profite pour vous lancer l'invitation de rejoindre une participation, une mise en route avec l'Église de la Chapelle, nos amis évangéliques de la Revenue du Parc, pour une prière lors de la Semaine de l'Unité des Chrétiens, le 20 janvier prochain. Ils accepteraient de venir à l'église Saint-Enfant-Jésus pour fraterniser, invoquer l'Esprit-Saint, nous rencontrer et nous tourner ensemble vers le Christ dans une prière de miséricorde et de supplication pour que cet Esprit nous montre des voies de réalisation du grand désir du Christ que tous soient un. Mes frères et mes sœurs, notre société est malade d'elle-même. Elle est devenue en quelque sorte étrangère à ce qu'il l'a engendré. Et cette année, nous fêtions les 25 ans de la petite bande FM. Eh bien, je reprends, copier-coller tout simplement la fin d'un entretien que nous avons eu à cette occasion. Alors que tout pointe vers la dictature de l'ego, l'Évangile constitue un grand remède universel. Il nous replace en continuation historique avec l'âme non seulement de l'Église, de nos fondateurs, l'âme de ce peuple que nous sommes. Plus encore, son message universel propose une voie de dialogue qui apparaît comme la seule issue pour régénérer, guérir, nourrir en vérité des liens entre nos générations, entre les classes dans notre société, entre les cultures, entre les blessures historiques de nos histoires, de nos pays, et les opinions divergentes, contre vents et marées, en dépit de toutes ces contradictions, ces contre-témoignages, ces pauvretés et ces misères, nous continuons à croire infailliblement dans la puissance de l'Évangile comme chemin d'humanisation, de fraternité, d'amour, de sens, étoile dans nos nuits, personnelles et collectives. À nous, frères et sœurs, de continuer de prier, d'imaginer, de créer, d'inventer, de mettre en œuvre de nouvelles manières de vivre, de l'incarner ce message et de le dire au monde d'aujourd'hui.